RFI, 10h30, ici à Paris, 8h30, en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Et soyez les bienvenus pour le dernier journal africain de votre matinale, avec tout d'abord le Togo qui s'apprête à entrer de plein pied dans sa 5e République, élection du président du Conseil aujourd'hui, celui qui aura le pouvoir exécutif, en l'occurrence le président Fornia Singbé. La journée mondiale pour la liberté de la presse focus sur la situation du Bénin. Dans ce journal, plusieurs ONG nous alertent. À 4 jours du conclave qui élira le prochain chef de l'Église catholique, on continue de vous présenter le Collège des cardinaux sur RFI. Ce matin, projecteur sur le cardinal ghanéen Peter Turkson. La paix qui attendra encore dans l'est de la RDC. Les diplomaties rwandaises et congolaises devaient normalement présenter hier un avant-projet d'accord de paix sous l'égide des États-Unis. Mais les discussions se poursuivent. Et puis la dernière étape du tour cycliste du Bénin, attendue aujourd'hui, 105 km entre Tofo et Cotonou. Un an après la promulgation de la nouvelle constitution au Togo, la toute dernière ligne droite dans la mise en place de la 5e République. Hier soir, le gouvernement a en effet présenté sa démission, acceptée par le président Fornia Singbé. Il ne reste donc que quelques étapes avant que le pays n'achève sa transition vers un régime parlementaire, Magali Lagrange.
Première étape, ce matin, les députés togolais sont convoqués pour désigner le président du Conseil. Chef du gouvernement et des armées, il détient le pouvoir exécutif selon la nouvelle constitution. Cette fonction revient au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, donc au chef de l'État, Fornia Singbé, à la tête du pays depuis 2005. Les législatives de l'année dernière ont donné 108 sièges sur 113 à son parti Unir pour un mandat de 6 ans, des résultats toujours contestés par plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile. Le nouveau président du Conseil prêtera serment dans la foulée devant la Cour constitutionnelle. Cet après-midi, les députés et sénateurs se réunissent en congrès. Ils doivent élire le nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans, une fonction devenue essentiellement honorifique. D'après la constitution de la 5e République, il accrédite les ambassadeurs, décerne les décorations et reçoit le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation. De leur côté, une partie des opposants prévoit de se mobiliser demain pour un meeting.
Eh oui, Magali Lagrange, un peu moins de 2 ans après son coup d'État contre Ali Bongo au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema sera officiellement investi à la présidence aujourd'hui. Lui qui a dirigé la transition, qui a raccroché ses galons de militaire pour remporter très largement l'élection organisée le mois passé. Cérémonie prévue dans le Stade de l'Amitié, dans le nord de Libreville, en présence bien sûr de plusieurs chefs d'État. En cette journée internationale consacrée à la liberté de la presse, le 3 mai comme tous les ans, focus ce matin sur la situation au Bénin, où plusieurs ONG soulignent l'urgence de protéger cette liberté, car depuis le début de l'année, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication béninoise a suspendu jusqu'à nouvel ordre 2 journaux, 3 sites et 1 compte d'information TikTok. Amnesty International, Reporters sans frontières et Internet sans frontières lancent donc un appel à l'heure où le Parlement béninois se penche sur la révision du Code du numérique, une loi essentiel justement pour garantir la liberté de la presse et la liberté d'expression, selon Kemal Afanion d'Internet sans frontières.
Nous estimons qu'il est important aujourd'hui de profiter en fait du projet de loi initié par le gouvernement pour modifier le code numérique, pour mettre à niveau ce texte. Nous avons apporté en fait notre modeste contribution à la relecture de ce texte pour que les dispositions actuelles qui enfreignent à l'exercice du droit à la liberté d'expression puissent être modifiées conformément en fait aux engagements que le Bénin a pris en adhérant au mécanisme de l'examen périodique universel. Un mécanisme en fait qui a permis au Bénin de recevoir des recommandations de plusieurs États pairs, car ces États aujourd'hui estiment qu'il y a un recours abondant à la procédure pénale à des fins de dissuasion générale en République du Bénin, qui, grâce aux dispositions actuelles contenues dans le Code du numérique, permet de dissuader de façon générale les voix critiques à l'endroit du gouvernement, et dans le même temps également qui vient fragiliser en fait la liberté d'expression des internautes béninois sur tout le territoire national et sur toutes les plateformes qu'ils utilisent pour faire valoir ce droit à la liberté d'expression.
Kemal Afanion d'Internet sans frontières. Une semaine après les funérailles du pape François, au Vatican, la curie romaine prépare le conclave censé débuter mercredi prochain pour élire le prochain chef de l'Église catholique. Alors qui pour succéder à François ? Ce sont les cardinaux qui vont voter pour élire l'un d'entre eux, et pour le moment, on continue donc de vous les présenter sur RFI. Hier, c'était le Guinéen Robert Sarah. Ce matin, place au Ghanéen Peter Turkson, créé cardinal il y a plus de 20 ans. Son portrait à Accra, signé Victor Cariou.
Le cardinal Peter Turkson est un défenseur convaincu de la non-violence. En 2016, il disait par exemple préférer la juste paix à la guerre juste, une conviction que l'homme d'église de 76 ans a porté près d'une décennie à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. C'est d'ailleurs lui que le pape François choisit d'envoyer dans un Soudan du Sud en proie à la guerre civile pour assurer une médiation. Et la confiance que le souverain pontife accorde à Peter Turkson ne s'arrête pas là. Participation à l'élaboration de la doctrine environnementale de l'Église, défense des droits des migrants ou encore dialogue avec les géants économiques mondiaux à Davos. En dépit de sa proximité avec le pape François, l'homme d'Église ghanéen a pu adopter des positions bien plus conservatrices que celles du chef du Vatican, notamment en matière d'homosexualité. Un point de vue qui, selon ses proches, confère à l'ancien archevêque de Cape Coast au Ghana une position centrale et influente au sein de la curie romaine. Victor Cariou, Accra, RFI.
Le délai d'une semaine est donc écoulé pour la mise en place d'un avant-projet d'accord de paix. Pourtant, aucune communication hier de la part des délégations de la RDC et du Rwanda. Une semaine donc tout juste après la signature d'une déclaration de principe sous l'égide de la diplomatie américaine. Les négociations en réalité se poursuivent. Le processus semble loin d'être terminé. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls engagés dans ce processus. On sait que le Qatar joue aussi un rôle. Et puis, beaucoup plus discrète quant à elle, mais bien présente, la France est également engagée, Passion Ligaudi.
La France est engagée à plusieurs niveaux dans ce processus de paix entre Kinshasa et Kigali, même si son rôle est parfois moins visible que celui des États-Unis ou du Qatar. D'abord, sur le plan politique, Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué à deux reprises pour tenter une médiation directe entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'après ses services, il continue à échanger régulièrement avec eux, mais aussi plus récemment avec le président togolais Faure Gnassingbé, qui représente l'Union africaine. Ensuite, la France est l'un des co-initiateurs du processus de Doha. D'après des sources diplomatiques, le projet de médiation a été au départ porté conjointement par Paris et Doha. Troisième niveau d'implication, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris joue ici un rôle central en tant que porte-plume de la RDC, une position quasi centrale à l'ONU. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en février dernier, la France a porté une résolution adoptée à l'unanimité qui condamne clairement l'offensive de la FCM-23 et la présence militaire rwandaise en RDC. Paris est aussi bien perçu du côté des Kigali qui apprécie l'approche française qui ne privilégie pas les sanctions. Quatrième point, la France siège au sein du comité de suivi international mis en place à Doha pour accompagner les étapes vers un accord de paix.
Passion Ligaudi. Allez, l'actu sport sur RFI et encore quelques bons coups de pédale pour refermer le Tour cycliste du Bénin. Hier, cinquième et avant-dernière étape, 100 km de Wigny à la capitale Porto Novo. Étape conclue au sprint par le maillot jaune Reinhard Jans van Rensburg qui remporte ainsi sa deuxième étape devant le Marocain Ibrahim Essebaï. 12 petites secondes séparent désormais les deux hommes au général. Et notons la performance des Béninois qui se sont illustrés avec deux hommes dans l'échappée du jour, repris de justesse à 2 petits kilomètres de l'arrivée. Envoyé spécial pour suivre ce tour, Olivier Pron.
Le maillot du premier des Béninois. Merci d'applaudir très fort. Sojedo Ricardo Durin.
Chez moi, c'est vraiment une fierté pour moi parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné pour pouvoir donner le meilleur de moi, même de l'équipe. Et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Ricardo Sojedo en arrivée, 80 km d'échappée, repris dans les artères de sa capitale par un peloton affamé, 12e au final, 32e au général. Qu'importe, le cyclisme béninois travaille bien et progresse vite. Ex-mentor des cyclistes rwandais, investi avec ceux du Bénin depuis les États-Unis, Jock Boyer estime avoir fait en 3 ans ici ce qu'il avait mis 8 années à construire au pays des mille collines. Glorad Saizonou, 19e aujourd'hui, est confiant et patient.
Je crois que avoir la confiance et la foi, ça va donner quelque chose. Ça progresse, on le constate tous, on s'améliore de jour en jour avec de nouveaux équipements et beaucoup d'entraînement, on progresse beaucoup et ça se voit quand même. L'objectif n'est pas encore atteint, on rêve encore beaucoup plus, mais je crois que ça va aller avec le temps, chaque chose en son temps.
En gros, donc, les résultats vont venir. Et bien même, résume Ezer Mensa.
C'est que nous avons de bons rails. Dans les années à venir, nous allons frapper fort.
Olivier Pron, Cotonou, RFI.
Et ce sera donc aujourd'hui l'ultime chance de gagner sur ce tour pour les Béninois. Dernière étape aujourd'hui, 105 km entre Tofo et Cotonou. Elle a fait les belles heures de l'équipe féminine du TP Mazembe en football. L'internationale congolaise Merveille Kanjinga espère bien briller ce soir sous le maillot du PSG. C'était l'un des gros transferts de la première division féminine en France. Et Merveille Kanjinga pourra peut-être décrocher son premier trophée ce soir. Finale de la Coupe de France dans un derby tout parisien. PSG contre Paris FC. 10h40 ici à Paris, 8h40 en temps universel. Restez à l'écoute de la radio du monde, bien sûr, vous retrouvez la suite de vos programmes.